Radio Fribourg,
c'est que du bonheur avec Amaël.
On continue cette matinée culturelle avec un roman fribourgeois signé Manuela Ackermann-Repon. Il sera disponible à partir de demain et s'intitule « L'âme déracinée ». Il est publié aux éditions Slatkin. L'auteur vous donne rendez-vous samedi au Rural à Givisier pour un vernissage. Bonjour Manuela, bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors avant de parler du livre, c'est vrai qu'on a envie de dire quelques mots pour vous présenter. Vous vivez à Marly, vous êtes enseignante et puis vous écrivez depuis très longtemps.
J'écris depuis toujours, on dira. Quand j'étais enfant, dès que je lisais un livre, j'étais une lectrice compulsive. Donc, dès que je lisais un livre et que la fin me convenait moyennement, je prenais un petit carnet puis je réécrivais la fin telle que j'aurais voulu la lire. Et puis j'ai toujours plus ou moins écrit. Après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vraiment diminué. Et puis là, en 2014, c'était vraiment devenu une nécessité. Il fallait que je sorte un livre, une histoire qui me trottait dans la tête depuis quelques semaines. Et puis c'est sorti comme ça mon premier roman, La Capeline écarlate.
Oui, en 2017. Elle se trouvait où cette urgence? Dans le ventre, dans la tête, dans les tripes?
Je pense qu'elle était un peu partout en fait. Surtout dans la tête. J'avais une phrase qui me tournait, la première phrase du roman qui m'a tourné dans la tête pendant, je pense, bien 3 semaines avant que je me décide à la poser sur le papier et puis à voir ce que ça allait donner.
Mais c'était clair que ça allait devenir votre premier roman?
Non, pas du tout.
Non,
non, non, j'avais aucune idée de si ça allait faire qu'une phrase, un paragraphe ou plus. Mais à ma grande joie, c'est devenu un roman complet.
Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Parce que vous êtes enseignante en fait comment est-ce qu'on dit ça? En activité créatrice, Emmanuel?
Voilà, exactement,
c'est
oui.
C'est ça.
Oui.
Donc vous créez de vos mains et vous créez avec les mots aussi. C'est deux phénomènes qui vont ensemble parfois?
Oui, ça m'arrive souvent de griffonner sur un carnet aussi des petits dessins quand je veux me représenter une scène du roman ou des personnages.
Ouais.
Et au début de mon activité d'enseignante, là, j'avais toute ma créativité qui était prise pour l'école et j'arrivais pas vraiment à écrire. Donc c'est là maintenant où j'ai quand même un peu plus de bouteilles dans l'enseignement où j'ai pu plus baser sur l'écriture.
On pourrait imaginer que vous fassiez des illustrations dans un prochain roman?
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Ok. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, La Capeline écarlate, c'est votre premier roman. Il est sorti en 2017. Et puis, celui-ci, L'âme déracinée, il est sorti... Bon, il sort demain, en fait.
Il sort demain.
J'allais dire avant, puisque je l'ai eu un petit peu avant, mais il sort demain. Donc, moi, j'avais envie de dire que la rédaction de ce deuxième ouvrage s'est passée très rapidement, mais ce n'est pas le cas, en fait.
Non, ce n'est pas vrai. Parce que du moment où un livre sort, en fait, il y a beaucoup de travail en amont. Mm-hmm. J'ai commencé à écrire La Capeline écarlate en 2014 et il m'a fallu une année complète pour trouver un éditeur. Et ensuite, il s'est encore passé une année jusqu'à ce que le livre sorte. Donc j'ai eu en réalité 2 ans pour écrire un roman suivant, mm-hmm. L'âme déracinée. Et puis, j'ai fait, je pense, 3 ans pour écrire L'âme déracinée. Je l'ai laissé poser un peu pendant la sortie de La Capeline écarlate et je l'ai repris ensuite pour le retravailler et le resoumettre au même éditeur qui l'a pris à ma grande joie.
C'est quoi vos sensations quand votre livre est publié?
Ah, c'est vraiment quelque chose d'étrange parce que en même temps c'est une grande joie de voir enfin l'objet terminé, de pouvoir le tenir dans ses mains et en même temps c'est il faut le lâcher, en fait. On le donne à quelqu'un d'autre. En fait, il ne nous appartient plus. Donc, c'est un sentiment un petit peu mitigé. Je pense que c'est comme le jour où on amène pour la première fois notre enfant à l'école. il faut le laisser partir.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que vivent tous les artistes à travers la musique, la peinture.
Oui, je pense.
Ou les livres, effectivement. Les retours des gens, ça vous nourrit? Vous les évitez? Vous essayez de pas trop en faire cas?
Alors pour l'instant, comme la plupart des retours ont été positifs, alors je sais pas si les gens qui n'ont pas aimé ou qui avaient quelque chose à dire, voilà, de négatif le disaient pas, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc ça porte énormément. Et puis j'aime quand même bien savoir ce que les gens ont pensé. Il y a quelques personnes dans mon entourage qui n'ont pas forcément beaucoup aimé, qui me l'ont dit. Je trouve que c'est aussi positif parce que on peut pas plaire à tout le monde, ça serait un peu suspect. Mm-hmm. Donc ça aide aussi peut-être à améliorer des choses ou te dire, j'écris ce que j'ai envie et puis ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis.
Les remarques, même si elles sont négatives, elles sont constructives.
Constructives et toujours bienveillantes.
Ouais.
Oui, non, il n'y a personne qui m'a démoli mon livre.
C'est bien.
Comme ça peut arriver parfois, j'ai des collègues auteurs qui ont eu des retours assez destructeurs parfois.
Ouais. Ça ne doit pas être évident. Alors, je vais raconter un petit peu ce qui se passe dans ce livre, L'âme déracinée. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon, Angelo, qui grandit en Calabre. Je pense que c'est à la fin des années 20. Hein.
Exactement.
C'est ça. Et puis, il s'occupe avec une tendresse immense de sa petite sœur Maria. Il est élevé par ses grands-parents, puisque ses parents sont partis dans le Nord pour travailler, puis gagner de l'argent pour faire vivre la famille. Et puis, un jour, il est littéralement arraché à son cocon familial. Il laisse derrière lui son amour de petite sœur. Et puis, il est appelé, en fait, pour aller travailler aux côtés de ses parents, qui sont allés chercher du travail plus loin, cette fois en France. Et puis, par la suite, il va être acheté carrément par un couple de bourgeois dont la femme veut absolument avoir un garçon. Ils vont le rebaptiser Ange. Ils vont l'emmener vivre à Paris. Ange va grandir, faire des bonnes études dans la capitale. Et puis, comme il est très beau garçon, il est repéré par un producteur de cinéma. Et il va devenir alors Angel Finlay, un acteur qui ira jusqu'à Hollywood. Cette histoire, Manuela, alors c'est celle d'un petit garçon qui va grandir à travers ses trois identités, qui va vivre à travers ses trois personnages, finalement sans jamais vraiment savoir qui il est.
C'est ça.
C'est ça. Hein.
C'est ça. Et ça sera ça, la question de sa vie, en fait. Mais qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis toujours le même? Ou est-ce que le fait d'avoir changé de nom, changé de lieu, je suis plus la même personne? Est-ce que j'ai été oubliée du destin?
C'est très joli parce qu'il dit ça. Ouais, est-ce qu'il y a un plan pour moi? Est-ce que Dieu a un plan pour moi?
Oui.
Comment elle vous est venue cette thématique et cette histoire?
Oh, j'en sais rien, en fait. Parfois, j'ai l'impression que certains personnages comme ça m'apparaissent, mm-hmm, et puis me livrent ce qu'ils ont à dire. C'est assez curieux comme phénomène. Je pense à écouter, ça doit paraître assez bizarre aussi. Mais... oui, vraiment, je sais pas, c'est venu comme ça.
Ouais, mais on entend parfois aussi ça des gens qui font de la musique, qui disent mais la mélodie est venue à moi, il y a quelque chose de qui nous dépasse là-dedans.
Mmh, tout à fait.
C'est
oui.
Le cas. Et vous avez vu Angelo d'abord?
Non, j'ai vu Angel d'abord parce qu'il est déjà dans la Capeline Écarlate.
Ok.
Et puis j'ai eu envie du coup de creuser ce personnage après coup.
D'accord.
Mais dans la Capeline Écarlate, il parle déjà qu'il est immigré,
ouais,
qu'il est arrivé là enfant.
Donc les gens qui ont lu La Capeline Écarlate vont retrouver ce personnage. Ce qui est intéressant, évidemment, après, dans le développement du livre, c'est ces trois identités, ces trois cultures. À la fin, il parle évidemment plusieurs langues, trois vies complètement différentes de ce petit garçon de Calabre à l'adulte qui vit une vie d'acteur célèbre. Est-ce que c'était difficile ou est-ce que c'était amusant pour vous d'écrire ces trois histoires en une, finalement, puis de trouver un lien entre elles?
C'était assez amusant. J'ai fait beaucoup de recherches aussi historiques, puisque ça se passe dans le passé, hein, la fin des années 20, ça se déroule jusque dans les années 60. Donc ça, c'était aussi assez amusant, parce que j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, ou que peut-être j'avais appris et oublié. J'ai dû aussi faire des recherches sur les dialectes calabrais,
oui,
que je connaissais pas du tout. C'était amusant. J'ai beaucoup aimé faire ça.
Oui, il vous a emmené un petit peu partout.
Ah oui, vraiment.
Le personnage. Dans les points qui ressortent et qui sont touchants, il y a la culpabilité d'Angelo, qui le poursuit aussi dans ses autres identités, celle d'avoir manqué à son devoir de grand frère, puisqu'il avait vraiment promis à sa petite sœur Maria de veiller sur elle. Il va même perdre tous les liens avec elle.
Mm-hmm. Oui, on est dans un canton catholique, c'est vrai que... Dans la religion, il y a beaucoup ce thème-là de la culpabilité. Hein. On se sent parfois coupable pour des broutilles. Et puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à effacer, à passer outre. Et puis c'est vrai que ça nous ronge et puis ça nous rend mal.
Ouais.
Et donc j'avais aussi envie de mettre ce thème-là et puis... Et puis de voir comment il pouvait se débrouiller avec ça, en fait.
Bon, il est très bien, vous l'écrivez très bien, parce que finalement, depuis le début, déjà, on sent vraiment ce lien particulier. C'est sa petite sœur, c'est son bijou. Et pour elle, il est tout, il est tout aussi. Et tout au long du livre, on se dit, est-ce qu'il va la retrouver?
Oui.
Enfin, on espère, en tout cas, qu'il va la retrouver. Une culpabilité autre aussi, c'est celle de vivre dans une cage dorée, à quelque part, quand il est avec ses parents français. Il va échapper à la guerre, il va être caché à Bordeaux pendant que Paris est occupé. Et ça va le ronger aussi.
Ah oui, alors complètement ça. Il va vraiment se dire qu'il a usurpé cette place, que... Oui, que vraiment, il ne mérite même pas la chance qui est la sienne. Il dit une fois aussi qu'en fait, il devrait être parmi les miséreux, les pieds dans la neige, dans le vent, sous des tentes. Mm-hmm. C'est aussi quelque chose, je trouve, qui m'interpelle, se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a la chance de grandir ici ou là ? Pourquoi nous, on vit dans un pays sans trop de problèmes alors que des gens meurent de faim ailleurs ? Ça paraît peut-être un petit peu facile à dire, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'interroge souvent.
Ouais. Ce qui revient souvent dans le livre aussi, en tant que lectrice, c'est de se dire, qui est-ce qu'il serait, s'il n'avait pas été déraciné, s'il était resté en Calabre avec sa petite sœur.
Ah oui, il serait probablement devenu, comme ses parents, un saisonnier.
Ouais.
À la culture des olives ou à la récolte du raisin, selon les saisons et selon les lieux et l'abondance des récoltes.
Et ça, c'est des questions, sans être forcément déracinées, qu'on peut tous se poser. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui si on avait pris un autre chemin ?
Ah oui, absolument.
Ouais, donc ça résonne en nous. Quelque chose de très fort dans le livre aussi, c'est cette perte des liens familiaux. Il a une relation absolument moche avec ses nouveaux parents bourgeois. Il n'y a rien à développer. Et puis, il a ses souvenirs d'enfance, les odeurs de la cuisine de sa grand-mère qui sont très présentes. Et puis, ce qui est très difficile alors, c'est effectivement qu'il perd vraiment sa vraie famille. Parce que quand il les retrouve, lui a tellement changé. Eux ont fait leur route. Il est devenu pour eux un riche insolent. C'est terrible.
Oui, c'est vrai qu'ils sont devenus des étrangers les uns pour les autres parce qu'il leur manque un pan immense de leur vie. Et en fait, pour lui, tout a continué la même chose dans sa tête. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient vécu d'autres choses, qu'ils avaient appris à vivre sans lui. Et puis que pour reprendre sa place, il ne fallait pas simplement arriver là et puis se montrer pour dire je suis de retour ou attendez-moi, je reviens. Enfin voilà, lui a vécu autre chose, il a eu d'autres opportunités. Et ses frères peuvent être un peu jaloux aussi de ce qu'il a vécu alors qu'eux ont dû trimer depuis tout petit. Et puis que lui, apparemment, il a presque une cuillère d'argent dans la bouche à partir de ses 11-12 ans.
Ouais. Et il n'y peut rien, et ça on le sent, on le lui reproche, et il n'a rien fait pour oui. Réellement. Alors, c'est vraiment un livre super, il se passe plein de choses, évidemment on raconte pas tout, mais il y a vraiment ces trois vies qui sont pleines, il y a plein de descriptions, il y a des histoires d'amour, évidemment, il y a les copains d'études, il y a vraiment du caractère dans ce livre, et puis cette caractéristique pour moi qui est tellement importante, c'est que quand on le commence, on n'arrive pas à s'arrêter, donc on le lit très vite, parce que l'histoire elle est surprenante, elle est intéressante, et puis les personnages se mettent vraiment à exister dans notre tête, et ça c'est bien parce que c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est que c'est vraiment ce personnage d'Angel qui est venu vous visiter et que vous avez développé.
Oui, merci, c'est un beau compliment. J'espère que beaucoup de lecteurs verront vivre ainsi les personnages dans leur tête.
Ouais, vraiment, ils arrivent. Est-ce que vous, comme auteur, quand vous écrivez, vous arrivez à savoir que vous mettez les mots justes, que l'histoire est bonne et que les personnages sont justes?
Non, c'est toujours un peu un doute. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est bien? Parce que dans ma tête, il y a beaucoup plus que ce qui est écrit.
Oui.
Il y a souvent un travail après de coupe un peu dans certains passages, certaines choses. Donc c'est vrai qu'avec toutes les recherches que je fais aussi, les recherches psychologiques des personnages, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément apparaître dans l'histoire, qui sont... dans le personnage, il est modelé de tout ça, mais je suis jamais sûre que ça paraît vraiment pour le lecteur. Bon, j'ai un groupe de relecteurs qui me font un super job de traquage de tout ce qui peut être faux ou illogique ou autre, et puis qui me donnent leur avis. Donc ça, c'est aussi très très précieux, parce que justement, parfois, il y a des choses qui leur paraît pas très logique ou un peu tiré par les cheveux, donc ils me le disent, et puis là après je peux aussi rectifier ou pas, si ça me paraît bon comme ça, je le laisse.
On parlait tout à l'heure de lâcher le bébé quand le livre sort, et puis de ces personnages qui finalement se construisent dans votre tête. À quel moment vous lâchez-vous? Quand le livre est en librairie, c'est bon, ou est-ce que ces personnages et l'histoire vous poursuivent assez longtemps?
Alors je pense que l'histoire va me poursuivre encore un petit peu. Je pense que tant que je serai en promotion avec le livre, en dédicace dans les librairies et autres, ou que j'aurai des retours de gens, je ne vais pas vraiment pouvoir le lâcher. Et puis ça fait quand même maintenant 5 ans que ce personnage-là m'accompagne. Donc je pense que ça ne va pas être
facile.
Très facile ni très rapide pour le lâcher.
Est-ce que vous êtes déjà aujourd'hui en train d'écrire d'autres choses ?
Alors j'ai d'autres choses sur le feu, mais c'est pas très avancé.
D'accord. Si on va sur votre site, on voit aussi que vous avez écrit des nouvelles, on peut suivre un petit peu votre actualité.
Oui.
Et l'actualité du moment, Manuela, c'est un vernissage ce samedi au Rural à Givisy à partir de 17h. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui. Alors, il va se passer plein de choses, en fait. Il y aura déjà les délivreurs de la maison éclose. C'est donc un groupe de lecteurs qui vont lire des extraits. Leur spécialité, c'est de, en fait, semer des graines de littérature et de faire des lectures un peu intimistes. Donc, de lire à 2-3 personnes en même temps, mais pas faire une lecture publique pour toute une assemblée, en fait. Donc là, ils seront 7, en principe, à venir se répartir des textes et faire découvrir des petits extraits.
D'accord.
Il y aura aussi des, j'appelle ça des tableaux, mais en réalité c'est plus des petites scénettes avec des objets qui représentent les trois parties du roman, donc la Calabre, la France, Bordeaux, et puis le cinéma. Il y aura aussi des extraits de films, il y aura un petit quiz pour les curieux,
ouais,
tester sa culture cinématographique, et puis,
Et puis
un petit peu à boire et à manger. À manger des spécialités italiennes, forcément.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, c'est un très joli programme. À partir de 17h ce samedi 2 février au Rural, jusqu'à 20h. Et puis, j'ai d'autres dates à donner encore. Vous serez les 16 et 17 février au Salon du Livre-Roman à la Bibliothèque cantonale et universitaire à Fribourg. Vous serez en dédicace à la librairie Payot le 23 février à partir de 14h. Et puis, le 1er mars à Bulle, à la librairie de Cap et de Meaux, où vous ne serez pas toute seule.
Non, je ne serai pas toute seule. Je serai accompagnée du poète Patrick Abonvin, qui est à son troisième recueil de poésie, qui fait des choses très fines, parfois tristes, parfois lumineuses. Mmh. Et puis, on va se faire des lectures croisées. Donc,
d'accord,
il va lire des extraits de mon roman et je vais lire certains de ses poèmes.
Extra. Eh bien, merci beaucoup, Manuela Ackermann-Repon, d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle, L'âme déracinée, c'est votre nouveau roman publié aux éditions Slatkin. J'imagine donc qu'on va le trouver à partir de demain.
Peut-être,
ou un peu après.
Pas tout à fait demain. Demain, normalement, il sort vraiment de presse et il est envoyé par l'éditeur. Donc, j'imagine que peut-être après-demain ou dans 2 jours,
d'accord,
il devrait être dans toutes les bonnes librairies. Je l'espère, en tout cas.
Eh bien, bon vent à ce livre et puis bon vent à vous pour la suite. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles.
Ben, merci beaucoup.
Bonne
merci
journée.
De m'avoir reçu. Bonne journée.
Avec plaisir. Au revoir.